Il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Linda Christelle Ballier.
7h20 universel, heureuse de vous retrouver pour cette première édition de ce jeudi 7 décembre. En titre de ce 7h, l'exercice des professions infirmières et sages-femmes et les modifications apportées dans la construction du métro d'Abidjan sont entre autres mesures adoptées en Conseil des ministres hier mercredi au palais de la présidence de la République. Les Échos avec Junior Cardin en début d'édition. Et pour les fêtes de fin d'année, le gouvernement invite les usagers à faire preuve de responsabilité et de civisme en cette période et durant celle de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le conseiller technique chargé de la sécurité routière au ministère des Transports, Étienne Kouakou, était mardi dernier à la tribune Tout savoir sur du CICG. Et puis dans l'actualité internationale, le Burkina Faso révise sa constitution, le français relégué au rang de langue de travail. La revue des titres des journaux ivoiriens sera l'affaire de Jean-Mélène Bitti avant la fin de ce journal. Et puis en toute fin d'édition, la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, Namizata Sangaré, reviendra avec Francis Cassis sur le récent rapport 2022 des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, produit et remis aux autorités ivoiriennes. Plusieurs mesures ont été arrêtées au cours du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu hier en présence du président de la République Alassane Ouattara au palais de la présidence. Il s'agit notamment de l'exercice des professions infirmières et sages-femmes ainsi que des modifications apportées dans la construction du métro d'Abidjan. Junior Cardin était au palais de la présidence hier mercredi. Voici son compte-rendu.
Le Conseil a adopté deux projets de loi, dont l'un porte sur le code de déontologie et exercice de la profession infirmière et l'autre la profession de sage-femme et maïeuticien. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement.
Ces différents dispositifs visent à introduire une pratique professionnelle consciencieuse, responsable et plus exigeante en définissant les droits et devoirs, notamment envers les patients, les conditions d'exercice, mais aussi la nomenclature des actes et des soins autorisés. Ces textes apportent plus de protection aussi bien pour chacune de ces professions essentielles au système de santé que aux patients bénéficiaires des actes posés.
En outre, le Conseil décide d'apporter des modifications à l'avenant de la convention de concession de la ligne 1 du métro d'Abidjan.
La ligne 1 du métro d'Abidjan d'une longueur de 37 km, desservira 7 communes à Niama, Abobo, Adjamé, Plateau, Trècheville, Marcory et Port-Boué. Le projet comprend notamment la construction de 18 stations et 24 ouvrages d'art constitués de ponts rails et ponts routes, des passerelles de transparence piétonne ainsi qu'un viaduc de franchissement de la lagune Ébrier dédiée au métro contigu au pont Félix Houphouët-Boigny prévu pour relier la section nord à la section sud.
Un autre décret concerne la ratification de l'accord cadre d'un montant de 116 milliards de francs CFA conclu entre la Banque islamique de développement et la Côte d'Ivoire pour la construction de la route Man-Kuibli-Guigulo-Taï.
Merci à vous, Junior Cardin. Et puis Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a pris un atelier sur la malinformation, la désinformation et sur la mésinformation, mais surtout sur les conséquences de la démocratie en Afrique en vue de favoriser la collaboration entre les acteurs de la société civile et des médias afin de discuter et déterminer les pistes d'action nationales et régionales afin de prévenir et contrer la désinformation et le recul de la démocratie dans la région. Financé par le National Endowment for Democracy et organisé par le NDI, le National Democratic Institute, cet atelier réunit des médias classiques et ceux en ligne, les organes de régulation des médias et les organisations de la société civile du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Niger. À ce propos, écoutons Madame Ulrike Rogers, directrice programme Afrique de l'Ouest francophone, NDI Washington.
Il y a déjà eu pas mal d'efforts en cours dans la sous-région de mettre un peu la main sur ce phénomène de la désinformation, mésinformation, manipulation. Nous tâchons cet atelier de réunir les acteurs, que ce soit la société civile proprement dite, ancienne, traditionnelle, les journalistes, les blogueurs, pour qu'il y ait cet échange sur d'abord identifier ce que c'est. Parce que la mésinformation, elle se présente sous des formes très variées à travers la sous-région. Vous avez pu constater qu'il y a des invités du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée et du Niger. Donc chaque pays fait face à des problèmes particuliers, mais on essaye de trouver les fils conducteurs derrière tous ces phénomènes qu'on constate, que ce soit la presse en ligne, que ce soit le journalisme traditionnel, mais aussi dans les actions de la société civile. Et ensuite, pouvoir mettre à disposition des moyens d'échange et aussi des moyens de prendre des actions concrètes pour informer les citoyens sur le phénomène et infuser les actions des acteurs de la société civile pour s'armer contre ce phénomène assez récent que nous tâchons toujours tous de comprendre.
À l'instant, Madame Ulrich Rogers, directrice programme Afrique de l'Ouest francophone, NDI Washington, elle était au micro de Mata Touré. Direction le Kabadougou, où le programme spécial de lutte contre la fragilité dans la zone nord de la Côte d'Ivoire, initié par le gouvernement et exécuté par l'Office du volontariat du service civique, est désormais officiel. Le lancement du dit programme a eu lieu récemment à Oudiné. Et ce programme, qui consiste à occuper sainement les jeunes en milieu rural, devrait s'étendre aux 7 régions du Grand Nord. On en sait un peu plus avec Bakary Touré-Labasse, notre correspondant dans le Kabadougou.
Le programme spécial de la lutte contre la fragilité dans la zone nord de Côte d'Ivoire, initié par le gouvernement et exécuté par l'Office du service civique du volontariat, vient d'entrer dans sa phase active, qui vise donc ce programme, élément de réponse avec Tano Kofi Antonio, sous-directeur à la direction du volontariat de l'Office du service civique.
L'Office du service civique est ici aujourd'hui pour former des jeunes volontaires dans le but d'apporter la quiétude, la cohésion sur les zones frontalières. Et c'est un programme qui tient beaucoup au cœur du chef de l'État et au ministre de la Jeunesse, ministre Mamadou Touré.
L'oisivité étant la mère de tous les vices, ce programme, selon Tano Kofi, consiste entre autres à occuper sainement les jeunes de la bande nord.
La formation que nous faisons va permettre aux jeunes d'appuyer les structures étatiques ou bien les structures officielles qui sont chargées de gérer toute la zone frontalière.
Et les actions de participants.
Traoré Aboubakar Sédic, nous sommes déplacés de Bélévent. Dès notre retour, vraiment la ville de Bélévent va sentir les jeunes bénévoles.
Gabi Yaya, le département de Somatigla.
Quelqu'un qui est du volontaire, qui a montré son amour pour un truc. Quand les bénéfices arrivent, il faut aller derrière ce dernier. Ça aussi, ça le motive.
Et celui-ci d'interpeller.
Mais on ne peut pas avoir des gens qui faisaient sans rien démasser. Et puis aujourd'hui, quand on voit qu'il y a une rentabilité, on va prendre des gens, les fabriquer, les venir les déposer. Il y a ce problème-là qui existe chez nous aussi.
Démarré par la ville de Diné, ce programme devrait s'étendre aussi aux autres régions du Grand Nord. Bakary Touré-Labasse, au Diné, Radio de la Paix.
Parlons à présent transport en période des fêtes de fin d'année. Donc, adopter des comportements civiques et responsables sur les routes pendant les fêtes de fin d'année et sur toute la période de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 qui se tient en Côte d'Ivoire de janvier à février 2024. C'est le message du gouvernement aux populations et plus spécifiquement aux usagers de la route, véhiculé par Étienne Kouakou, le conseiller technique chargé de la sécurité routière au ministère des Transports. Il était mardi dernier l'invité de la tribune Tout Savoir Sûr du Centre d'Information et de Communication Gouvernementale, CICG.
Que nous sommes tous concernés par les accidents de la circulation et tous responsables de la sécurité routière, nous devons nous engager tous ensemble à lutter contre l'incivisme sur la route. J'invite donc l'ensemble des populations à l'occasion des fêtes de fin d'année qui arrivent et de la CAN 2023 que notre pays organise, de faire en sorte que nous présentions l'image la plus belle possible. Au niveau du comportement sur les routes, que ce soit des comportements civiques. Au niveau de la conduite des véhicules, en ce qui concerne les conducteurs, qu'ils se gardent d'avoir des comportements inciviques quand ils sont au volant. Je l'ai dit, Les bons comportements que nous conseillons aux conducteurs sont des comportements sécuritaires. Le respect de la réglementation, le respect du code de la route, des comportements coopératifs, le respect des autres qui sont avec vous dans la circulation, le comportement responsable, l'entretien de son véhicule. Nous pensons que dans cet esprit d'engagement citoyen et de tous concernés par la sécurité routière, que chacun fera sa part, en commençant par les municipalités pour que nos voies soient libérées des corps étrangers qui malheureusement peuvent aggraver les risques d'accident. Voici un peu le message pour que nous puissions cohabiter de façon harmonieuse sur la route, pour que ces routes soient sûres avec des comportements civiques de chacun d'entre nous.
Kwaku Étienne, conseiller technique chargé de la sécurité routière au ministère des Transports. Enseignement technique et formation professionnelle depuis le 29 novembre et ce jusqu'à ce jeudi 7 décembre 2023, le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CITFOR, à travers sa campagne d'exposition-vente de livres techniques et professionnels, dénommée le livre technique de proximité, veut promouvoir les écrits du corps enseignant dans les lycées techniques et professionnels de Côte d'Ivoire. Cette campagne a démarré, on rappelle, le lycée multisectoriel Mohamed VI de Yopougon, en présence de partenaires canadiens de l'Association nationale des éditeurs du livre du Québec, suivant le compte-rendu de Jean-Mélène Bitty.
Susciter de l'engouement au niveau des enseignants et des apprenants à travers une campagne d'exposition-vente dénommée le livre technique de proximité est l'objectif visé par le CITFOR. Sur cette campagne, Khadija Diallo, directrice du CITFOR.
Éditer des livres écrits par des professeurs ivoiriens de l'enseignement technique de la formation professionnelle, édités par des éditeurs ivoiriens, le concept, on se rapproche des établissements scolaires, des enseignants, des élèves. Parce que c'est vrai qu'on fait des activités, mais tout le monde n'a pas l'information. Nous avons décidé de nous rapprocher du milieu de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Représentant le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Akodjoa Lukounzou, inspecteur de l'enseignement technique, revient sur les retombées de ce projet.
La plus-value, c'est encore de nouvelles données d'apprentissage et non seulement cela, mais des ouvrages. Et chaque apprenant pourra acquérir un ouvrage pour encore parfaire son apprentissage.
Dans le cadre de cette campagne, le CITFOR a reçu l'appui du gouvernement du Québec avec plus de 200 ouvrages canadiens basés sur la formation par compétences. Frédéric Saint-Julien de l'Association nationale des éditeurs de livres du Québec.
Un partenariat avec le CITFOR dans le but de doter les bibliothèques de livres de formation technique qui sont reconnus pour justement l'approche par compétences. Évidemment que ces ouvrages-là aussi ont été évalués en Côte d'Ivoire pour s'assurer qu'ils répondaient aux attentes des centres de formation technique.
Débuté par le lycée Mohamed VI de Yopougon, cette campagne prendra fin le 7 décembre prochain avec l'étape du lycée professionnel des métiers de la mécanique et de l'électricité de Kumasi.
Dans l'actualité, hors de nos frontières, le gouvernement burkinabé a adopté hier mercredi un projet de loi révisant la constitution et consacrant désormais les langues nationales comme langue officielle à la place du français qui est relégué, lui, au rang de langue de travail. Le compte-rendu du Conseil des ministres précise que ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une des principales missions de la transition qui consiste à engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture démocratique et consolider l'état de droit. Ce projet de loi doit encore être voté par l'Assemblée législative de transition, qui prévoit également l'institution de mécanismes traditionnels et alternatifs de règlement des différends. Sans transition, nous retrouvons Jean-Mélène Bitty pour la revue des titres de vos journaux ivoiriens parus ce jeudi. Bonjour Jean-Mélène.
Bonjour Linda, bonjour à tous. La fermeture de plus de 10 022 cliniques clandestines, les nouvelles conditions d'acquisition de la nationalité ivoirienne, la course à la présidence du PDCI RDA, le recrutement de près de 5 000 jeunes au métier des sports et la commémoration du décès du premier président Félix Houphouët-Boigny sont les principales articulations de cette revue des titres de ce jeudi 7 décembre 2023 en Côte d'Ivoire. Fermeture de plus de 1 022 cliniques clandestines en Côte d'Ivoire,
sur cette décision prise par le gouvernement au Conseil des ministres sur ce sujet. Les Sceaux ivoiriens ouvrent le bal en titrant « Conseil des ministres, le gouvernement tape le poing sur la table. 10 022 cliniques clandestines à bientôt fermées en Côte d'Ivoire. » Dans la même veine, le Jour Plus met en manchette « Santé publique, plus de 1000 cliniques à bientôt fermées. » Le sursaut ne dira pas le contraire sur ce sujet. Il met en co-une « Santé, 10 022 structures sanitaires illégales découvertes. » Ce que va faire le gouvernement, structure exerçante dans l'illégalité, fermée, nous informe de son côté le Patriote. Fraternité Matin, quant à lui, revient sur les causes de la fermeture de ses cliniques. Les nouvelles conditions d'acquisition de la nationalité ivoirienne fait aussi la une des journaux de ce jeudi. À ce propos, notre voix indique « Acquisition de la nationalité par le mariage, voici les nouvelles conditions. L'acquisition de la nationalité, le mariage ne suffit plus », annonce le ministre Sansan Kambilé dans les colonnes du sursaut. Toujours sur le même sujet, dans le Patriote, le ministre Sansan Kambilé fait savoir qu'entre 2020 et 2023, près de 9000 cas de fraude ont été constatés dans les cas d'acquisition de la nationalité par le mariage. La course à la présidence du PDCI RDA cristallise à l'actualité politique en Côte d'Ivoire et cette information est reprise par les journaux de ce jour. C'est dans ce contexte que le Jour Plus nous donne les raisons des retraits de certains candidats. Et sur ce sujet, il titre « Voici pourquoi Benjo et Koumoué ont jeté l'éponge ». Selon Dernière Heure Monde, les discussions entre Thiam et Yassé sont en bonne voie. Le Nouveau Réveil a de son côté titre « Candidature à la présidence du PDCI RDA ». Jikaoué giflé à l'extérieur et sanctionné à l'intérieur. Le Bélier lui fait remarquer que le consensus se dessine autour de Thiam. Année de la jeunesse, près de 5000 jeunes seront formés au métier des sports. Avec le matin, on peut lire « Année de la jeunesse, la formation de 5000 jeunes au métier des sports démarre le 13 décembre sur la même lancée. » Le rassemblement lui indique que la liste des 5000 jeunes admis publiée. Sur ce sujet, l'intelligent d'Abidjan, lui, de son côté, annonce que c'est 33 métiers des sports qui sont concernés par cette formation. La commémoration du 30e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny est célébrée ce jeudi et cette célébration est diversement relatée par les quotidiens de ce jour. À ce propos, le Nouveau Réveil, un journal proche du PDCI, parti qu'il a fondé, titre 7 décembre 93 à 7 décembre 2023, 30 ans après, l'ombre de Félix Houphouët-Boigny plane plus que jamais. Félix Houphouët-Boigny, 30 ans après, l'héritage met en manchette le journal gouvernemental Fraternité Matin. Le quotidien L'Expression de son côté fait savoir que Félix Houphouët-Boigny demeure toujours un mythe 30 ans après. Le sursaut, contrairement aux autres, tire à boulet rouge sur les héritiers d'Houphouët-Boigny. Nos confrères reviennent sur comment l'houphouétisme est devenu un fonds de commerce. Voici l'essentiel de l'actualité vue par vos journaux de ce jour. À vos kiosques à journaux et bonne lecture.
Merci à vous, Jean-Mélène Buti, pour cette revue des titres dans l'édition de 8h. Vous serez de retour pour le même exercice. L'invité de la rédaction, et ce jour, il s'agit de la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Elle affirme un état 2022 satisfaisant de ses droits dans le pays, ajoutant avoir remis à cet effet le rapport aux autorités. Namizata Sangaré répond aux questions de Francis Cassi.
Namizata Sangaré, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, quelle est la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire au regard de votre bilan 2022?
Effectivement, le CNDH vient de sacrifier à une tradition légale, celle de présenter son rapport annuel sur l'état des droits de l'homme au président de la République, qui était à cette occasion représenté par le haut représentant. Nous avons présenté ce même rapport au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ce que vous pouvez retenir, c'est que le rapport annuel comprend trois parties. La première partie est consacrée à l'état des droits de l'homme. La deuxième partie a trait aux activités réalisées par le CNDH. Et la troisième partie fait part des acquis, difficultés et perspectives au cours de l'année 2022. Alors, l'état des droits de l'homme, nous l'avons appréhendé en trois catégories de droits. Les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et les droits dits de solidarité.
Donc, grosso modo, ce rapport, il est comment?
Il faut dire que beaucoup d'efforts sont faits par le gouvernement ivoirien pour améliorer les conditions de tous ceux qui vivent dans notre pays.
Pourquoi un rapport 2022 alors que nous sommes en 2023 et que bientôt l'année 2023 va s'achever?
Alors, le CNDH élabore un rapport annuel qui est présenté au président de la République au Sénat, à l'Assemblée nationale et ce rapport est ensuite publié. Et donc, la publication du rapport est conditionnée par l'agenda de ces trois institutions.
Quels sont les indicateurs ou éléments clés que vous prenez en compte pour la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire?
Alors, pour ce qui est du chapitre des droits civils et politiques, nous l'avons appréhendé sur l'angle de la participation politique aux processus électoraux, à la sécurité, à la sûreté. Et pour ce qui est de la sécurité des personnes, nous avons par exemple dans notre rapport annuel documenté 12 000 accidents corporels ayant occasionné plus de 1 200 tués. Nous avons également noté les mesures d'apaisement dans le cadre du dialogue politique. Ça, c'est dans le chapitre des droits civils et politiques. Et pour ce qui est des droits économiques, sociaux et culturels, le CNDH a porté principalement son attention sur le recensement de la population et puis sur l'accessibilité des populations aux soins de santé.
Alors, quand vous parlez de droits civils et politiques, est-ce qu'on y met les arrestations et la déchéance de ces droits civiques liés, par exemple, à la politique, au syndicalisme et autres?
Alors, il faut dire que le CNDH a aussi un mandat qui lui permet de visiter tous les lieux privatifs de liberté, cela de façon inopinée. Et nous avons pu effectivement visiter les violons, les 34 MAC de la Côte d'Ivoire. Nous avons visité les conditions de détention de certaines personnes qui y étaient détenues.
Quel est le rang que la Côte d'Ivoire occupe dans le classement des nations par rapport au respect des droits de l'homme?
Ce qu'il faut retenir, c'est que notre pays est un des rares qui a abondamment proclamé les droits de l'homme. La Côte d'Ivoire a ratifié l'essentiel des instruments pertinents juridiques qui protègent les droits de l'homme. Maintenant, la mise en œuvre de ces instruments de protection des droits de l'homme, c'est chacun de nous qui doit œuvrer. Hommes de médias, hommes de droit, société civile, institution nationale des droits de l'homme. Et donc, le respect des droits de l'homme, c'est une quête permanente.
Mais et en termes de rang, est-ce que la Côte d'Ivoire fait partie des nations où plus ou moins les droits de l'homme sont respectés?
Oui, quand vous regardez les institutions de sondage aujourd'hui, la Côte d'Ivoire occupe un bon rang, les Mo Ibrahim et autres. Et vous avez remarqué également que depuis la mise en place de l'institution nationale en charge des questions des droits de l'homme, les organisations internationales n'écrivent plus comme par le passé sur les situations, parce que la situation s'améliore dans notre pays.
Et qu'est-ce que dit le bilan 2022 par rapport à la presse?
Alors, par rapport à la presse, il faut dire que la Côte d'Ivoire a fait un bon qualitatif dans le cadre de la notation de certaines institutions de sondage.
Par rapport aux autorités de régulation telles que l'ANP et la AACA, est-ce que vous avez aussi un regard là-bas pour voir si le travail est fait conformément à la loi et selon l'éthique?
Nous avons une forte interaction avec la AACA, également avec l'ANP. Et pour preuve, tous les mois, la AACA nous partage son rapport mensuel.
Récemment, les réseaux sociaux et puis la presse se sont fait l'écho de certaines arrestations de personnes, dont une en Mauritanie qui a été rapatriée et puis deux autres à Oudjéné. Est-ce que le CNDH est au courant?
Nous sommes non seulement informés, et nous avons documenté tous ces cas et nous avons le point de toutes ces arrestations et détentions.
Et qu'en est-il des gendarmes ivoiriens arrêtés et détenus actuellement au Burkina?
Oui, comme le cas par le passé au Mali, aujourd'hui nous sommes en relation avec la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme du Burkina et qui nous fait régulièrement le point de nos concitoyens qui sont dans les liens de la détention.
Alors, est-ce que vous avez espoir que ces compatriotes vont retourner bientôt dans leur pays?
Mais bien sûr, nous avons espoir que très rapidement, ces personnalités vont recouvrer la liberté.
Namizata Sangaré, je vous remercie.
C'était la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, Namizata Sangaré, invitée de la rédaction. Elle répondait aux questions de Francis Cassi, un entretien qui met un terme à notre édition. Le rappel des titres à présent. L'exercice des professions infirmières et sages-femmes et les modifications apportées dans la construction du métro d'Abidjan sont entre autres mesures adoptées en Conseil des ministres hier au palais de la présidence. Et pour les fêtes de fin d'année, le gouvernement invite les usagers et les populations à faire preuve de responsabilité et de civisme en cette période et durant celle de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le conseiller technique chargé de la sécurité routière au ministère des Transports, Étienne Kakou, était mardi dernier à la tribune Tout Savoir Sûr du CICG. Et puis le Burkina Faso révise sa constitution, le français relégué au rang de langue de travail. C'est la fin de ce 7 heures. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité d'ici et d'ailleurs sur Radio de la Paix, c'est à 8 heures.